un pas de côté.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'évasion touristique en Vercors Drôme, un pas de côté. C'est une émission qui est réalisée en partenariat avec les offices de tourisme Vercors Drôme, donc qui compte trois antennes à Saint-Jean en Royan, à La Chapelle en Vercors et à Saint-Nazaire en Royan. Et nous sommes en compagnie de Maëva de l'office de tourisme Vercors Drôme. Bonjour.
Bonjour Anouchka.
Maëva, vous avez rejoint l'équipe de l'office de tourisme il y a quelques mois et votre rôle est notamment de mettre en valeur le territoire.
Oui, avec la frénésie du quotidien, il est souvent difficile de ralentir la cadence et de se poser. Faire un pas de côté, c'est prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous et de prendre conscience de notre environnement. Le pas de côté, c'est une invitation à voir le monde à travers les yeux d'acteurs locaux du Vercors et à reconnaître la richesse qui nous entoure et ces richesses qui sont souvent oubliées, voire même parfois ignorées. Donc prenons ensemble ce pas de côté pour découvrir, voire redécouvrir, celles et ceux qui font vivre notre territoire.
L'occasion donc de s'évader un peu pour cette édition de février 2024 du Pas de Côté. Il s'agit déjà du numéro 41. Et c'est une édition plutôt gourmande puisqu'on va notamment parler fromage de chèvre, pain ou encore pâtisserie. Avec tout d'abord du côté des reportages ce mois-ci, la chèvrerie du Bar à Saint-Martin en Vercors qui produit des fromages et des yaourts de chèvre fermiers et bio qui sont vendus localement. Et c'est vous Maëva qui leur avez rendu visite.
Oui, j'ai rencontré Léna et Jonathan de la chèvrerie du Bar, un couple très très sympathique de Saint-Martin en Vercors qui ont repris la chèvrerie et qui du coup ont fait l'élevage de chèvres et la partie plutôt fromagerie. Je vous invite à aller goûter leur camembert qui est assez exceptionnel.
Un petit conseil donc de Maëva qui a rendu visite à Jonathan et Léna de la chèvrerie du Bar. On écoute.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la chèvrerie du Bar et dire ce qui vous rend un peu unique sur le secteur de territoire?
Alors, je suis Jonathan Julien. Du coup, je suis en cours d'installation sur la chèvrerie du Bar à Saint-Martin-en-Vercors, à 900 mètres d'altitude. Du coup, la chèvrerie du Bar, c'est à peu près 80 chèvres en bio, en pâturage. On fait différents types de fromages et des yaourts. Qu'on vend principalement localement, un peu sur le secteur du Royan et sur le plateau des Quatre Montagnes. Voilà. Et du coup, moi, je suis sur la ferme depuis un an et demi, deux ans à peu près. Ouais.
Donc, moi, c'est Léna Gaillard. J'ai du coup racheté le bâtiment sur lequel on a créé la chèvrerie du Bar en 2020. Je me suis installée toute seule au début, donc je faisais que de la vente de lait en coopérative. En gardant en tête qu'on avait un labo de transfo à disposition et que si quelqu'un était partant, on pourrait transformer. Ce qui a été le cas en rencontrant Jonathan, qui du coup m'a rejoint deux ans plus tard, grosso modo.
Oui, on peut dire que la chèvrerie du Bar, ça nous a permis d'avoir une relation de couple spéciale puisqu'on travaillait ensemble. Tout en ayant chacun nos ateliers bien distincts. Moi, je suis le fromager et Léna, c'est l'éleveuse. Donc, voilà, on a chacun nos responsabilités dans la société. Et l'avantage de ce métier, c'est qu'en fait, on s'ennuie jamais parce que on a un milliard de choses différentes à faire au gré des saisons. On fait du fromage, on soigne les animaux, On fait du fourrage, on entretient les champs, les clôtures, donc on s'ennuie jamais, quoi.
C'est quoi votre plus gros défi, selon vous, que vous avez eu ces dernières années, vis-à-vis du Covid?
Le plus gros défi, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est s'adapter au changement climatique. Je pense que ça va être la plus grosse problématique des prochaines années. Et il faut, enfin, il y a plus une seule année qui se ressemble, clairement, entre moi, depuis que je me suis installée, j'ai eu une année de sec, une année que de pluie, une année de sec, une année de pluie, de la neige en novembre, de la neige en avril, mais pas de neige en décembre. Enfin, c'est vraiment, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup, à s'adapter sans cesse, à revoir un peu, ce que les anciens, faisait, si on écoute nos anciens, nos grands-parents, les foins c'était en juillet, enfin, c'est une remise en question remise en question. En tout cas, c'est de revoir toutes les manières de faire et puis surtout toujours prévoir, parce qu'on ne sait pas comment l'année va se dérouler au final, est-ce que cette année va y avoir du foin ou non, l'année dernière on en a eu, mais l'année d'avant pas du tout. Donc, remettre toujours en question cette partie-là où on n'est jamais sûr d'avoir du fourrage ni en qualité ni en quantité, et puis la gestion en fait du pâturage par rapport aux chèvres avec les changements en fait de conditions climatiques qui changent chaque année, qui posent d'autres problèmes au niveau parasitaire, au niveau de la gestion de l'herbe, savoir si on va en avoir assez pour passer l'été ou si finalement on va avoir de la pluie, ça va aller. Je pense que c'est un gros enjeu, je pense.
Et ces incertitudes aussi, cette variabilité du climat, ça a des impacts économiques aussi, puisque on achète quand même une partie de l'aliment des chèvres. Et même si on achète le plus local possible, régional, on subit des variations sur le prix de ces aliments. Et nous, derrière, on peut pas appliquer de la variabilité sur le prix des fromages, tout ça. Donc, c'est quelque part notre reste à vivre qui s'adapte au fil des aléas. Donc ça, économiquement, pour les agriculteurs, ça va être vraiment un gros challenge. Continuer à essayer de se sortir un revenu décent avec toutes les matières premières qui, elles, varient d'une année sur l'autre. Quoi.
Vous ressentez une problématique de concurrence déloyale vis-à-vis d'autres pays, d'autres chèvreries, fromageries?
Nous, ressentir la concurrence déloyale... au niveau de la transformation en fromage, je suis pas sûre qu'on le sente. Par contre, au niveau de l'achat des matières premières, la vente, on le sent pas, mais enfin, je pense pas, parce qu'on est quand même un petit territoire et avec des valeurs de consommer local au plus proche. Enfin, y a vraiment une démarche quand même très 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 local chez nous, mais par contre au niveau des matières premières, de l'achat des matières premières ou de l'électricité, hein, tout simplement, on n'a pas du tout la main dessus et on voit bien, il y a 2 ans, c'était le début de la guerre en Ukraine, l'année d'après c'est la pluie, enfin je ne sais plus dans quelle chronologie ça c'était, mais on dépend énormément des événements qui se passent dans le monde au niveau du prix des aliments. Ce qui est assez aberrant en réalité, que ce soit autant de la spéculation.
C'est comme je disais, on achète nos aliments local, on va dire au plus loin en région Rhône-Alpes, et pourtant on subit les aléas d'une guerre qui est à 4000 km d'ici, et on sent encore aujourd'hui des conséquences du Covid et de la guerre en Ukraine, alors que ça fait maintenant plusieurs années. Et en fait, c'est pas forcément expliqué par tout le monde, mais nous, à notre échelle, on comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on subit encore ces conséquences économiques, alors que on nous dit c'est rentré dans l'ordre, mais les prix baissent pas, quoi. Voilà.
Ou pas aussi vite que c'est monté.
Exactement, oui.
Puis l'électricité monte encore, on ne sait pas trop pourquoi.
Après, c'est un problématique qui se retrouve dans toutes les entreprises.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais voilà, je pense que... Après, la partie agricole est encore plus spéciale pour ça, parce que c'est vrai que... Alors nous, on fixe nos prix avec les fromages. Après, on fait en sorte quand même que ce soit dans le marché. Mais c'est vrai que pour ceux qui vendent, comme nous, on a longtemps, les premières années, on a vendu en coopérative, tu ne gères pas du tout ton prix. Donc ça, c'est vraiment le plus gros souci, c'est que tu ne gères pas tes prix d'achat et tu ne gères pas ton prix de vente, quoi. Et ça, c'est encore plus compliqué. Nous, on peut toujours dire on peut avoir une petite marge de manœuvre, mais par respect par nos clients, on ne peut pas non plus augmenter à fond ou on va perdre nos clients, quoi.
Est-ce que vous avez une petite anecdote un peu sympa, la plus sympa que vous ayez?
Moi, j'aime bien... une anecdote. Je ne sais pas si c'est vraiment une anecdote, mais on rigole beaucoup que Jonathan, il est conjoint collaborateur pour le moment, ce qui n'est pas habituel en réalité en agricole. C'est un peu l'histoire de l'agriculture. C'était les femmes qui étaient conjointes collaboratrices ou juste femmes d'agriculteurs. Ce qui, moi, me fait toujours sourire parce que ma grand-mère était une grande manifestante et elle disait toujours « je ne suis pas femme d'agriculteur, je suis agricultrice ». Du coup, ce qui me fait assez sourire quand on pense qu'aujourd'hui, c'est Jonathan qui, pour un petit temps, qui est conjoint d'agriculteur.
En plus, je suis fromager, alors que souvent dans les couples en fait, d'agriculteurs avec transformation, c'est la femme qui fait le fromage et l'homme qui s'occupe du reste. Nous, on fait tout à l'envers.
Est-ce que vous pouvez me faire vous avez une petite boutique ici?
Oui.
Si vous pouvez me faire un topo sur la boutique et où est-ce que vous vendez vos fromages, enfin votre processus
Alors à la chèvrerie du Bar, on propose plusieurs types de fromages, 6 types de fromages. Donc on fait un fromage, un petit crottin de chèvre traditionnel, entre guillemets. On fait de la bûchette cendrée. On va faire un fromage aussi, un fromage frais aux herbes et au miel qui est récolté sur le Vercors. On va faire aussi un type camembert de chèvre qui a beaucoup de succès. Voilà, parce que c'est un produit assez rare en chèvre, donc ça c'est quelque chose qui s'est bien démarqué. En hiver, on propose une raclette de chèvre aussi, et puis sinon tout le reste de l'année on fait une pâte pressée un peu inspirée de la tome de Savoie, mais toujours au lait de chèvre. Et à côté de ça on fait des yaourts à la vanille et nature. Et tous ces bons produits on les vend sur le marché de la Chapelle en Vercors le jeudi matin. Et puis après, comme je le disais, on reste dans un périmètre assez restreint puisqu'on va livrer les biocopes de Villard-de-Lans et de Saint-Jean-en-Royans. Et puis après, tout un tas de petites épiceries locales et magasins de produits locaux, toujours sur les mêmes secteurs du Vercors isérois et puis du Royan. Et puis évidemment, les restaurateurs locaux qui jouent vachement le jeu de prendre des produits du terroir. Et pour nous, c'est super positif puisque c'est vrai que ça met bien en valeur les produits dans des très bons restaurants qu'on a sur le secteur, quoi.
Quels sont vos projets, vos ambitions pour le futur de la chèvrerie du Bar?
Les ambitions de la chèvrerie du Bar, je ne sais pas si on peut dire qu'on a vraiment des ambitions. En tout cas, nous, ce qu'on a envie, c'est vraiment de pérenniser notre clientèle qui soit toujours vraiment fidèle et content de nos produits. On n'a pas forcément envie d'aller chercher des clients plus loin. Nous, ça nous convient bien de fonctionner localement comme ça, parce qu'on connaît nos clients, on connaît nos revendeurs. Et puis, ça s'inscrit dans notre éthique d'élevage, c'est-à-dire qu'on achète les aliments des chèvres localement et on revend les produits finis localement. Comme ça, on contribue à avoir un élevage avec quand même une empreinte carbone la plus faible possible, on va dire. Et les ambitions, du coup, il n'y en a pas forcément, mais c'est voilà. Se ménager du temps personnellement, tout en ayant un maximum de temps pour soigner les chèvres, pour qu'elles puissent profiter du pâturage le mieux possible. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
On a une éthique de rester quand même à la taille qu'on a actuellement. Ça nous convient bien, on n'a pas des projets d'agrandissement de troupeaux ou autre, on est vraiment sur taille humaine avec des valeurs qui nous tiennent quand même assez à cœur de pouvoir accompagner nos chèvres du mieux qu'on puisse, du début jusqu'à la fin.
Nous, à la chèvrerie du Bar, on vous incite à continuer à manger local, des bonnes choses et produites par des gens qui sont passionnés. Et du coup, vous êtes évidemment les bienvenus si vous voulez voir notre façon de travailler à la chèvrerie du Bar à Saint-Martin-en-Vercors.
Un pas de côté.
Merci donc à Jonathan et Léna de la chèvrerie du Bar, donc à Saint-Martin-en-Vercors, qui répondaient aux questions de Maëva. Et on peut retrouver Maëva, toutes leurs actualités, sur leur page Facebook, je crois.
Tout à fait.
la chèvrerie du bar. Et pour notre prochain sujet, on continue de se régaler, mais on passe des fromages à la boulangerie. On parle de Rocarpin à Vassieux-en-Vercors, et Maëva, vous êtes rendue sur place pour rencontrer Nora et Christophe.
Oui, tout à fait. Nora et Christophe, très engagés dans cette année de commémoration pour le Vercors, pour les 80 ans des combats du Vercors. Nora et Christophe ont créé des fèves qui sont personnalisées à l'effigie de grands résistants du territoire. Ils ont aussi un secret que tous les boulangers n'ont pas. On vous laisse écouter.
Un pas de côté.
Alors, moi, je suis Nora Rocarpin. Je suis la boulangère de Vassieux-en-Vercors. C'est moi qui fabrique tout ce que vous pouvez trouver dans la boulangerie, le pain, les viennoiseries, les pâtisseries. Tout est fait maison, artisanalement.
Et moi, je suis Christophe. Je suis le conjoint de Nora. Moi, je suis très peu à la fabrication. Ce qui me concerne dans la fabrication, c'est tout ce qui ne nécessite pas de grandes compétences techniques. Les sablés, les cookies, les pizzas, les quiches, les choses... entre autres, et je suis plus consacré à la vente, à la comptabilité, à la communication, à la facturation, à tout ce qui va autour du métier pour que Nora et notre pâtissière puissent se consacrer à la fabrication.
Rocarpin, R-O-C-A-R-P-I-N, c'est Christophe qui a trouvé cette idée-là.
Le roc pour la montagne,
voilà.
Et l'art du pain.
L'artisan du pain, ça allait très bien, c'était un beau jeu de mots avec mon nom.
Quelles sont les valeurs fondamentales ?
Eh ben, c'est avant tout un service de proximité, comme beaucoup de services, c'est presque une raison d'être. On est là avant tout pour rendre un service et non pas pour faire que du commerce. La preuve en est, c'est qu'on a plusieurs mois dans l'année où commercialement ça serait intéressant d'être fermé, mais que pas de pain dans un village, ça reste difficile à accepter, donc on prend le choix de rester ouvert malgré le fait que ce ne soit pas du tout rentable d'être ouvert au mois de novembre, au mois d'octobre, au mois d'avril. Tous ces mois-là sont des mois très peu rentables, mais comme on est service de proximité et qu'on a choisi d'être service de proximité, eh ben on est ouvert à cette période-là. Et l'idée, c'était de faire du pain un peu à l'inverse de toute la mode, c'est-à-dire les grandes chaînes de distribution qui font beaucoup, tout le temps, 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui jettent beaucoup. Nous, c'était de faire du pain, du bon pain, et dans un endroit où le bon pain est apprécié.
Quelles sont vos spécialités et qu'est-ce qui les rend uniques dans la région ?
On a avant tout une spécialité qui est complètement unique dans la région, c'est la pangée. C'est ce biscuit à l'abricot, au miel et aux amandes. Et ça, c'est la propriété d'une petite association de pâtissiers drômois. Nous sommes actuellement 10 dans cette association, répartis le plus au sud à Montélimar, le plus au nord à Saint-Vallier. Et donc nous sommes propriétaires en commun de cette pâtisserie qui s'appelle la Pangée. Chacun fabriquant les siennes. C'est une propriété commune, chacun fabriquant les siennes. Donc ça, c'est caractéristique de la boulangerie de Vassieux, puisque le plus au sud de nos partenaires, c'est à Montélimar, le plus au nord... c'est à Saint-Jean-en-Royans, et le plus à l'ouest, c'est à Chabeuil. Et donc, on est tout seul sur le plateau à fabriquer cette pangée. C'est une recette particulière qui est commune à tous les adhérents de cette association.
Après, chacun y met son coup de main. Ce qui fait la différence, c'est le coup de main. On a chacun le choix de nos ingrédients. On sélectionne chacun nos fournisseurs. Donc ça peut faire aussi une différence. Mais c'est surtout le coup de main de chaque pâtissier qui rentre en compte dans la recette.
Comment vous sélectionnez justement vos ingrédients ? Et quelle importance vous accordez à la qualité de la provenance ?
Pour moi, l'important, c'est de le choisir comme si je le faisais pour moi-même. Je fais ce que je fais pour les autres, ce que je ferai pour moi-même ou pour ma famille ou pour mes proches. Donc le choix des ingrédients et des matières premières est important. On essaie le plus possible de choisir des fournisseurs à proximité quand c'est possible, parce qu'il faut bien se dire aussi que pour certains produits, la proximité, ça n'est pas possible ou c'est beaucoup trop cher. C'est aussi ça rentre en compte aussi dans notre choix. C'est vrai que par exemple pour ce qui est des amandes, les amandes vous en trouvez dans la Drôme provençale, mais il y en a très très peu et elles sont très très chères. Donc le but c'est quand même de pouvoir proposer un produit accessible aussi. Et dans ce cas-là, on ne peut pas choisir et sélectionner un produit local. Par contre, on fait beaucoup de choix locaux, par exemple pour le fromage. On travaille avec un producteur de la Chapelle pour le bleu du Vercors, évidemment. On fait le choix d'un meunier aussi qui est à proximité.
C'est François Chola, et c'est un meunier du Nord-Isère. Donc c'est à vol d'oiseau, à moins de 100 km d'ici.
Voilà. Et toute la production de blé se trouve à moins de 200 km de nous.
Vous me parliez de l'initiative de Mes Défaits, vous avez fait les portraits des résistants.
Alors l'initiative, je l'avoue, vient de moi. Mon premier métier avant de rencontrer Nora, j'étais militaire de carrière. Donc c'est un sujet, la résistance, qui me touche toujours, qui m'a toujours touché, même avant, même quand j'étais jeune. Et ben on est dans un village qui vit quand même autour de cette mémoire historique, mais dans un village qui ne se morfond pas autour de sa mémoire historique. Donc on en parle ouvertement, on ne se lamente pas sur l'histoire du village. Et j'ai trouvé que mettre à l'honneur un certain nombre des figures emblématiques de la résistance du Vercors, à travers ces fèves, c'était l'occasion d'en parler, et sans en parler lourdement. Et ça, je trouve que c'est important, même si pour les jeunes, ça parle peut-être un peu moins. Et ben, autour d'une galette des rois, ça permet aux adultes de parler aux enfants de ces sept figures emblématiques qu'on a choisies. Alors, on aurait pu en choisir plus. Ça a été difficile. On s'est fait aider par Pierre-Louis Fillet, directeur du musée, qui m'a donné un bon coup de main pour essayer d'avoir un choix ouvert et équilibré. Et donc, on a fait ce choix-là, en se disant que ça allait faire plaisir. Alors, on n'en était pas convaincu, comme tous les choix qu'on fait plus de 6 mois ou 1 an en avance. Hein. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que ça a bien touché beaucoup de monde.
Pas mal de retours positifs et chaleureux sur un très bel accueil sur cette initiative, et ça fait plaisir.
Alors, 100% du village, ou en tous les cas, tous les retours qu'on a directement au comptoir, c'est des retours très positifs, mais on a fait un petit peu travailler la communication, les réseaux sociaux, les radios locales. Et ça aussi, on a eu des retours qui viennent de plus loin en Drôme. On n'a pas encore traversé ni la France ni le monde, hein, mais des retours qui viennent de différents endroits de Drôme, et même d'ailleurs, effectivement, qui font que c'est quelque chose qui a plu. Et donc c'est bien. Moi, je suis content du fait qu'on fasse quelque chose qui plaît avant tout.
Sur quels critères vous avez basé votre choix, votre sélection ?
Alors l'idée, c'était de ne pas être trop proche du village, dans l'idée où, comme on n'avait que 7 figures à choisir, on aurait forcément fait des mécontents. Donc le choix était complètement impossible à faire si on se centrait sur le village. Donc on a décidé de choisir le plateau tout entier. Et en fait, dans la sélection qu'on a fait, on a des militaires, des civils, des hommes, des femmes, des gens originaires du Vercors et des gens qui sont montés dans le Vercors à ce moment-là. Et on a aussi des gens qui ont survécu à la guerre et des gens qui sont morts pendant les événements de 1944. Donc je pense qu'on a choisi un échantillon représentatif.
Un beau panache. Cette année, on va commémorer les 80 ans de la fusillade de Bassieux.
De tous les événements.
De tous les combats. Est-ce que vous avez prévu quelque chose dans ce même sens ? Est-ce que c'est lié à cet événement ?
Eh bien, nous, c'est exclusivement lié à cet événement, puisque il y a un an, on savait déjà que 2024 commémorerait les 80e anniversaire des événements. Donc on s'est dit que l'année commençant par l'épiphanie et par ce choix de fèves, puisqu'on avait décidé de faire des fèves personnalisées, eh bien, c'était la bonne solution ou la bonne idée pour commencer l'année en parlant de ces événements de 1944. Et en fait, à Bassieux en particulier, comme partout en France, c'est quelque chose qui va se dérouler tout au long de l'année 1944, avec à Bassieux en point d'orgue le 21 juillet. Et puis voilà.
Un pas de côté.
Merci donc à Nora et Christophe de la boulangerie Rocarpin à Bassieux en Vercors qui répondaient à vos questions, Maëva. Et c'est le dernier arrêt de notre évasion touristique du mois, avec la nouvelle exposition en cours, désormais à l'Office de tourisme de Saint-Jean en Royan, donc dans les locaux de l'Office de tourisme. Et il s'agit d'une exposition de photographie de Ludivine Van Poucq qui est sur le thème de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Maëva ?
Impressionnisme avec le haut mis en valeur, c'est le regard de l'eau tout en conscience. Des moments magiques qui se transforment souvent en peinture un peu impressionniste. On retrouve Ludivine Van Poek qui va tout vous expliquer.
Ludivine Van Poek, donc Patrice a pu rencontrer à l'occasion du vernissage de l'exposition. On écoute.
Votre intérêt pour la photo, c'est quelque chose que vous avez cultivé, qui est nouveau l'impressionnisme, ou vous aviez d'autres axes photographiques ?
Eh bien, ça fait quelques années que je photographie. Après, je reste en amateur. Et j'ai pu exposer à deux reprises, il y a quelques années, simplement des paysages. En fait, moi, j'aime beaucoup la nature. Et c'est surtout ça qui m'inspire. Et ma précédente exposition s'appelait « Les arbres, l'eau, la vie ». Donc, c'est vraiment sur ces axes-là que mes photographies se tournent.
Ah oui, alors si on se souvient bien, effectivement, vous aviez déjà une première fois exposé avec des paysages plus, disons, plus globaux. Et là, on se ressent vraiment sur la matière.
Oui, tout à fait. L'eau, c'est vraiment un élément qui me parle beaucoup et que j'aime énormément. Et j'ai pu avoir des expériences en ayant mon appareil photo. Quelque chose des moments assez magiques. Et lorsque j'ai pris une photo, cette photo devenait un tableau impressionniste et j'ai vraiment voulu réitérer cela et reproduire cela, revivre cela à plusieurs reprises. Voilà.
Et de transposer aussi sur l'eau. En fait, l'eau, c'est tellement vaste. Oui. On parlait de l'eau, le ruisseau, le lac, l'eau plus stagnante, plus remuante. C'est comme ça que vous avez élaboré un certain panorama de l'eau et sa matière, sa texture, on pourrait dire même.
Oui, alors j'ai surtout photographié des rivières et par la suite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que les rivières qui étaient magiques, il y avait aussi les lacs et puis il y avait aussi les piscines.
Ça fait partie du paysage de l'eau. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Et à chaque fois, quelque chose de magique se dégageait. On n'a pas vraiment l'habitude de voir l'eau sous cet aspect-là. L'eau peut être autant dévastatrice qu'elle peut être belle, réparatrice et apaisante. Et j'ai souhaité mettre cet accent-là sur le côté apaisant et beau de l'eau.
Et aussi la couleur qui donne à chaque cliché des tons très différents. On peut vraiment entrevoir l'eau avec une multitude de couleurs selon le jour, l'heure, la matière elle-même de l'eau.
Oui, en fait... Il faut s'imaginer, quand on regarde ces photos, qu'il y a des reflets dedans. Donc autant des reflets d'arbres que des reflets de... Ça peut être des fougères, ça peut être simplement la lumière également. Et parfois, il y a un rocher qui est au milieu. Donc c'est tout ça qui donne les couleurs à la photo.
Ouais, c'est finalement une perspective... très large et très profonde, effectivement, toute cette notion de reflet, d'agitation de l'eau, les couleurs aux différents moments de la journée. Alors, c'est des clichés que vous avez découverts, vous avez fait un petit tour d'horizon. Comment vous êtes organisé pour prendre ces différents clichés ou c'est au fur et à mesure des rencontres?
Je vais me balader et j'ai mon appareil photo avec moi. Et ensuite, j'observe beaucoup, ce qui fait qu'à un moment donné, lorsque je suis le long d'un canal ou le long d'une rivière, il y a un détail qui va m'appeler, mon œil là va se poser dessus, et puis d'un coup, paf, ça se crée devant moi et je vois la photo et j'y vais. C'est vraiment sur l'instant, donc c'est un instant T qui est unique et qui ne se reproduira jamais, et comme s'il était là spécialement pour moi, et voilà.
Le temps peut combiner des lumières différentes selon si c'est nuageux, soleil. Vous avez un peu privilégié des situations comme ça?
Oui, je me suis rendu compte que même s'il y a des moments, il y avait des très beaux endroits, des très beaux reflets, le fait qu'il manque, ça manquait de lumière, même si j'ai pris la photo, finalement la photo ne ressort pas telle qu'elle m'était apparue. Donc là, c'est vraiment une sélection de plein de photos que j'ai pu prendre dans la nature, principalement dans le Royan Vercors d'ailleurs. Mais effectivement, certaines ne sont pas, n'ont pas le côté magique. Donc je les choisis pas, bien évidemment, même si le moment était beau.
Un pas de côté.
Merci donc à la photographe Ludivine Van Poek qui a créé cette exposition sur le thème de l'eau impressionnisme et qui répondait aux questions de Patrice. Et donc je le disais, cette exposition est visible dans les locaux de l'Office de tourisme de Saint-Jean-en-Royan. Est-ce qu'on peut rappeler les horaires d'ouverture, Maëva ?
Jusqu'au 16 février, du lundi au vendredi de 9h30 à midi. Et à partir du 17 février, donc les vacances scolaires, l'Office de tourisme sera ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à midi, de 15h à 17h.
Merci Maëva donc pour ces horaires de l'exposition donc de Ludivine Van Poek, Impressionnisme. Et c'est déjà la fin d'Un Pas de Côté, notre magazine d'évasion touristique en Vercors-Drôme. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet radioroyan.fr. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux reportages inspirants. Un grand merci à nos auditrices, à nos auditeurs de nous avoir suivis. Et à très bientôt. Au revoir Maëva.
Au revoir Anouchka.
Un pas de côté.